Radio Kapi.
Oh, Kapi. 7h à Kinshasa, le journal avec Jocelyne Moussa Oponde. Attaque de la base de la Bonusco ayant coûté la vie à 14 casques bleus le 7 décembre dernier à Beni, le gouvernement congolais annonce l'ouverture d'une enquête. Accalmie depuis hier à Djougou en Ituri, après 5 jours de violence entre membres des communautés Ema et Lendu dans certaines localités de cette entité située au nord de Bunia. L'invité de ce matin est Olivier Baird, représentant régional, assistant chargé de la protection au bureau du HCR RDC. Bonjour à tous. Le gouvernement congolais annonce l'ouverture d'une enquête sur la mort des 14 casques bleus tanzaniens le 7 décembre dernier à Semuluki, dans les territoires de Beni, province du Nord-Kivu. Au cours d'une conférence de presse hier jeudi à son cabinet, le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et Médias a fait savoir que cette enquête se déroule en collaboration avec la MONUSCO. Jeff Ngoy nous en parle.
C'est dans une attaque armée attribuée au présumé rebelle ougandais de l'ADEF que les 14 casques bleus tanzaniens ont trouvé la mort. Mais les circonstances de cette attaque ayant conduit à leur disparition ainsi que les responsabilités qui en découlent restent à élucider. Lambert Mende confirme l'ouverture de l'enquête à ce sujet qui pourrait tirer les choses au clair. Selon le ministre, la cour militaire opérationnelle de Beni est d'ores et déjà à pied d'œuvre. Elle s'y emploie avec la mission des Nations Unies en RDC afin d'en établir les responsabilités et sanctionner les coupables. Vous avez constaté avec nous la timidité de condamnation de ces massacres par certains acteurs qui se sont spécialisés ces dernières années dans la récupération politicienne et donné des injonctions pour exiger une enquête internationale indépendante. Mais pour les 14 militaires tanzaniens, aucune demande d'enquête indépendante, indique le ministre.
Le ministre Lambert Mende a par ailleurs réaffirmé l'engagement du gouvernement de financer les élections en fonction du plan de décaissement convenu avec la CENI et en fonction de recettes réalisées au cours de l'année. La CENI a soumis un plan de financement en vertu duquel 60 millions de dollars sont sollicités pour le mois de janvier et le gouvernement a décidé de mettre à la disposition cette somme qui est prévue pour ce mois, a-t-il dit. Lambert Mende a rappelé que le budget des élections sera séquentiel. Ce sont des recettes qu'on va réaliser au cours de l'année, qu'on affecte au fur et à mesure qu'on les réalise, a-t-il expliqué. Élection partielle des gouverneurs des provinces. Les provinces du Kasaï central, de l'Équateur et de la Mongala ont connu le nom de leur nouveau gouverneur hier. Il s'agit respectivement de Denis Kambay, Bobo Oboloko et Lumbonga, tous candidats de la majorité dans la première province citée. Il s'agissait de trouver un successeur à Alex Kandé, déchu en octobre dernier après l'adoption d'une motion de censure. La tâche ne sera pas du tout facile pour l'ancien ministre des Sports, Denis Kambay, qui va hériter une province avec plein de défis accentués par le conflit qui a secoué l'espace Kasaï. Joël Bofengo.
Par 12 voix contre 10, l'ancien ministre de Sport Denis Kambay devance son challenger Martin Kabuya. 23 députés provinciaux sur 24 ont pris part au scrutin. Un bulletin a été déclaré nul. Si ces résultats sont confirmés par la cour d'appel de Kananga le 6 janvier prochain, Denis Kambay va succéder à Alex Kondé. Le nouveau gouverneur va hériter d'une province qui fait face à d'énormes difficultés. L'insurrection de la milice Kamuinantsapu qui a embrasé toute la région du Kasaï et partie du Kasaï central. Un conflit de pouvoir coutumier qui s'est transformé en l'une des crises les plus graves que le pays a connues au cours de ces dernières années. Plus de 3000 personnes ont trouvé la mort dans la région selon l'église catholique. Près d'1,5 million de personnes ont été contraintes de fuir leurs habitations. Après plus d'un an de conflit, la région est dévastée. Le Kasaï central comme les provinces voisines tentent de panser ses plaies. L'économie de la province est littéralement asphyxiée. La frontière angolaise par où entraient de nombreux produits de consommation a été fermée à cause des violences. Éloignés de leurs terres, les paysans n'ont pas cultivé. Les humanitaires redoutent une grave crise alimentaire. C'est à tous ces problèmes que le nouveau gouverneur élu va devoir apporter des solutions. Depuis Kananga, Joël Bofengo, Radio Okapi.
La majorité présidentielle se félicite de l'élection de ses candidats dans les trois provinces engagées dans l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, à savoir l'Équateur, Kasaï central et Mongala. Selon son secrétaire général adjoint, cet exercice démocratique est un prélude de ce qui va arriver au pays en décembre 2018. Et la famille politique du chef de l'État s'est résolument engagée quant à ce. Joseph Kokonyangi, au micro de Jacques-Yves.
L'opinion nationale et internationale est témoin. Trois provinces viennent de passer à un exercice démocratique important. nous avons assisté à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Vous avez constaté qu'il y a eu des candidats de la société civile, il y a eu des candidats de l'opposition, particulièrement du Rassemblement, il y a eu des candidats de la majorité présidentielle. Comme je vous ai toujours dit que la majorité, c'est une machine à broyer. C'est pour vous dire que ça, c'est un prélude, c'est l'annonce. Nous prions pour que le 23 décembre 2018 arrive vite. Et c'est ici le moment de féliciter l'autorité morale de la majorité présidentielle pour cette victoire écrasante qui démontre à ses adversaires qu'ils ne peuvent pas lui arriver même à la cheville.
Également dans l'actualité, le comité laïque de coordination appelle à une marche le 31 décembre prochain. Selon la déclaration de cette structure de l'Église catholique rendue publique hier jeudi, l'objectif de cette marche, qui est la suite de ces actions programmées, est de libérer l'avenir du Congo. Écoutez à ce propos le professeur Thierry Landou, l'un des membres du CLC au micro d'Innocent-Linga.
Ensemble, comme le 16 février 1992, unissons nos efforts et nos forces pour dire non à cet esclavagisme imposé par l'oligarchie du pouvoir. En attendant de le faire de manière plus décisive dans les urnes en 2018, nous disons trois fois non à la confiscation de la démocratie par une poignée d'individus. Puisque nous voulons des élections crédibles, libérons-nous de la peur, de la résignation et de l'inertie coupable. Levons-nous et marchons dans la capitale, en province ou à l'étranger. Femmes et hommes de foi, croyants en Dieu et chrétiens de toute sensibilité, toute personne éprise de justice et de paix, de toute condition et de toute génération, engagés ou non dans l'activité politique et associative, levons-nous pour libérer l'avenir. Ce dimanche 31 décembre 2017, main dans la main, nous marcherons pour sauver le Congo, dans le respect sacré des personnes et des biens.
Notez que, outre le professeur Thierry Landou, le comité laïque de coordination est chapeauté collégialement par le professeur Isidore Ndaiwel, le professeur Justin Okana, Madame Léonine Kandolo et Julien Lukengu. Je l'ai dit en titre, le calme est revenu depuis hier jeudi en territoire de Djougou après près de 5 jours de tensions entre certains membres des communautés Emma et Lindou dans certaines localités de cette entité située au nord de Bounia. Et selon le gouverneur intérimaire, les FARDC et la police ont été déployés dans la zone pour rétablir l'ordre. Le bilan provisoire de ce conflit est de 2 personnes tuées, dont un militaire, près de 200 maisons incendiées et le déplacement des habitants dans plusieurs villages. Isaac Raymond.
Des sources locales rapportent qu'il n'y a pas eu d'agitation la nuit dernière des manifestants des part et d'autre des deux communautés. Les cas des incendies n'ont pas été enregistrés dans presque toute la zone. C'est là, contrairement aux 3 premiers jours où environ 5 villages ont été attaqués par des membres des deux ethnies. Des sources humanitaires indiquent qu'environ 200 maisons ont été incendiées dans ces localités, entraînant les déplacements de nombreux habitants qui vivent dans des conditions précaires. Un militaire a été tué et 2 autres dépouillés de leurs armes. Face à l'escalade des violences dans la région, le gouvernement provincial a déployé des FARDC et des éléments de la police pour rétablir l'ordre. Le vice-gouverneur a révélé que les forces de l'ordre ont récupéré les 2 armes qui ont été emportées par les manifestants. Des chefs coutumiers et les membres du comité de sécurité du territoire de Djougou ont été également dépêchés dans la région pour sensibiliser la population pour une cohabitation pacifique. Signalons qu'une délégation du gouvernement provincial est attendue en territoire de Djougou pour la résolution pacifique de ces conflits pour ne pas retomber dans les cycles des violences des années 2000. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Dans la province du Haut-Ouélé, la localité d'Aba, en territoire de Faradjé, située à plus de 600 km à l'est de Kisangani, fait face à une pénurie de denrées alimentaires. Cette situation est consécutive à l'afflux massif des réfugiés sud-soudanais qui fuient le conflit armé dans leur pays. Selon la société civile locale, leur nombre est évalué à plus de 30 000 réfugiés sans aucune assistance alimentaire. La société civile Il lance un cri de détresse aux autorités ainsi qu'aux humanitaires pour subvenir aux besoins de ces réfugiés et de la population locale. Le président de la société civile de Faradjé, Robert Madrakele, joint au téléphone par André Kitenge.
La situation qui prévaut, c'est que leur nombre a augmenté. Contrairement aux effectifs du mois de novembre, leur nombre est estimé actuellement à 30 062 réfugiés. Cela a pour conséquence la rareté des denrées alimentaires sur tous les marchés de cette partie du territoire de Faradjila. Aussi bien pour les réfugiés que pour la population locale, parce que la substance dont bénéficient les réfugiés, c'est souvent en monnaie. C'est une assistance financière à partir de quelques humanitaires qui sont implantés là. Donc la quantité des denrées alimentaires ne suffit pas pour la population locale, aussi bien que pour les réfugiés. Nous recommandons aux autorités, aussi bien qu'aux humanitaires, de venir en aide à cette population-là, en vivre et en non-vivre, et également de pouvoir à l'aménagement du tronçon routier qui rend inaccessible cette partie du territoire de Faradjila, pour que les vivres soient facilement acheminés jusque-là.
Dans le même chapitre, près de 18 000 réfugiés rwandais de la RDC ont été rapatriés en 2017 et ceux qui ne le seront pas au 31 décembre garderont toujours leur statut de réfugiés malgré la clause de cessation de ce statut dont l'échéance était fixée à la fin de cette année. C'est le représentant régional assistant chargé de la protection au bureau du HCR RDC qui donne cette information. Olivier Baird explique le pourquoi au micro d'Honoré Missenga.
La République démocratique du Congo, parce qu'elle a un contexte particulier, c'est elle qui a reçu le plus grand nombre de réfugiés, il faut donc plus de temps pour trouver des solutions, elle n'a pas encore invoqué la clause de cessation.
Cela veut dire que le statut de réfugié est encore applicable aux Rwandais qui sont sur le sol congolais.
Tout à fait. Après le 31 décembre 2017, soit au 1er janvier 2018, les réfugiés rwandais qui se trouvent en République démocratique du Congo sont toujours, aux yeux de la République démocratique du Congo, des réfugiés qui continueront à bénéficier de la protection de la République démocratique du Congo. Donc rien ne se passera pour eux. J'ai entendu dire par certains que le 1er janvier 2018, ils allaient perdre leur nationalité, ils allaient perdre leur statut.
Olivier Baird du bureau du HCR RDC est notre invité à suivre en seconde partie de ce journal. Direction Sud Kivu, les religieuses de la congrégation des sœurs franciscaines volent au secours des policiers qui étaient sans abri au camp Jules Moquet de la commune de Bagira dans la ville de Bukavu. 19 maisons de 3 pièces chacune ont été remises officiellement au gouverneur de province qui à son tour a remis les clés au commissaire provincial de la police hier jeudi. Ce geste de générosité des religieuses à l'égard des policiers ne s'arrête pas seulement à la dotation en maison résidentielle. Reportage Jean Kassem.
Chacune comprend 3 pièces, dont 2 chambres à coucher et 1 salon. Le gouverneur de province ad intérim a réceptionné les clés qu'il a ensuite remises au commissaire provincial de la police. La sœur scolastique qui chapeaute les projets renseigne que ces maisons déjà achevées constituent une première partie du projet des 100 maisons que la congrégation des sœurs franciscaines se propose de construire dans le but de doter des abris de qualité aux familles des policiers. Ceci grâce aux moyens des donateurs occidentaux. Le gouverneur intérimaire avec le commissaire provincial de la PNC ont demandé aux bénéficiaires de ces maisons de les garder en beau père de famille. L'émotion de la sœur scolastique est montée d'un coup lorsqu'elle a abordé le sujet en rapport avec la menace d'expoliation par une tierce du site de la SNCC qui abrite l'une des écoles qui encadre les enfants des policiers démunis. Les autorités présentes sur les lieux ont promis de se pencher sur la question. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Et puis sachez qu'un nouveau régime des sanctions visant les acteurs impliqués dans les abus de droits de l'homme et la corruption dans le monde a été rendu public hier jeudi par l'administration Trump. Ainsi, l'homme d'affaires Dan Yetler, bien connu dans les milieux d'affaires congolais, se retrouve sur la liste de personnes sanctionnées. L'OFAC, qui est l'organisme de contrôle financier et dépendant du département du Trésor des États-Unis, écrit, je cite, « Yetler a utilisé son amitié avec le président de la RDC Joseph Kabila pour agir en tant qu'intermédiaire pour la vente d'actifs miniers en RDC. En conséquence, entre 2010 et 2012, la RDC aurait perdu plus de 1,36 milliard de dollars à cause de la sous-évaluation des actifs miniers qui ont été vendus à des sociétés offshore liées à Yetler. Fin de citation.
Actualité Afrique Monde.
Le président français Emmanuel Macron se rendra au Niger en fin de journée ce vendredi. Au programme, une rencontre avec le président Mahamadou Issoufou et une visite des troupes de Barkhane. C'est la dernière destination étrangère de l'année pour le chef de l'État français. Emmanuel Macron passera 20 heures au Niger ce vendredi entre la base aérienne projetée de Niamey et le palais présidentiel. Le président gambien Adama Barrow est en Chine pour une semaine, sa première visite officielle à Pékin depuis la reprise de relations diplomatiques entre les deux pays l'année dernière. Le président chinois a exprimé son intention d'approfondir la coopération dans l'agriculture, la fourniture en électricité et dans les infrastructures. Pour Sébastien Lubelzik, directeur du magazine China Africa Info, cette visite est très importante pour la Gambie qui est à la recherche de partenaires financiers pour relancer son économie.